puce à l'oreille.
C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the world. We are
the children.
La puce à l'oreille sur Radioscope 107.
La puce à l'oreille, bonjour, bienvenue pour votre rendez-vous magazine. La puce à l'oreille, aujourd'hui avec la conférence débat organisée dans le cadre du FestiPlanète autour du film Il était une forêt. Un film qui nous emmène au cœur d'une forêt primaire sous des latitudes équatoriales. Et ensuite, eh bien, nous sommes revenus ici dans le Douaisis pour parler boisement et forêt avec nos invités Gaëtan Cavite pour le GON, le groupement ornithologique et naturaliste Nord-Pas-de-Calais, et puis avec nous également Cédric des Planteurs Volontaires. Retour sur le FestiPlanète autour du thème de la forêt, aujourd'hui dans la puce à l'oreille.
C'est là une forêt extraordinaire, c'est ce type de forêt qui disparaît de plus en plus, non pas sous nos latitudes, mais sous les latitudes tropicales, équatoriales. C'est une espèce d'appel à arrêter de détruire tout ça. Et en même temps, il y a l'espoir, puisque évidemment on est dans une échelle de temps absolument différente de l'humain, mais il y a l'espoir que ça puisse se reconstituer un jour.
Cédric.
Je suis entièrement d'accord avec Gaëtan, il a pratiquement tout dit avec son commentaire. Et moi, ce que je vois avec ce film, c'est que finalement, ce système d'évolution de la forêt au fur et à mesure, c'est quelque chose qu'on pourrait facilement, enfin, qui est transportable chez nous très facilement. Si l'homme n'intervient pas dans la forêt comme il le fait actuellement, c'est le même système qui se met en place.
Le processus qu'on voit sur l'évolution de la forêt, que ce soit sous les tropiques ou ici, c'est la même chose. Une forêt, ça grandit, ça vit de la même façon. Il y a quand même quelques différences, Gaëtan.
Il y a des différences. Moi, ce qui me saute à l'esprit, c'est que en Europe occidentale, hormis une forêt en Pologne qui est une forêt primaire, qui n'a jamais été jardinée, horticulturée, coupée, nos forêts sont des forêts jardinées, c'est-à-dire dans lesquelles l'homme intervient depuis longtemps. Je veux dire, on n'a plus de nature sauvage au sens vraiment primaire du terme. Donc c'est là une différence essentielle. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la capacité de régénération existe toujours, ça c'est certain. Donc je dirais la question, c'est de où on met le curseur dans le jardinage, entre guillemets, de la forêt. Parfois, on va peut-être trop vite par rapport à la capacité de régénération de la forêt.
Les planteurs volontaires, Cédric, vous faites quoi, vous, finalement ? Vous jardinez de la forêt ?
Pas tout à fait. Nous, c'est... Comment dire ? On est plus sur l'implantation de haies bocagères dans le parcellaire agricole. C'est donc l'implantation de haies avec différents arbustes locaux. Ça nous arrive également de faire des parcelles forestières. Et oui, dans ce cas-là, on va plus être dans de la forêt jardinée, tout à fait. Où là, le but est clairement, de la part des propriétaires, d'en tirer un revenu.
C'est-à-dire, on plante du bois pour dans... quelques décennies.
Ah non, on va pas parler en termes d'années ou de décennies, on va parler d'un siècle pour certaines espèces. Voilà, on le voit, hein. Là carrément, Monsieur Allais nous parle de millénaires. Nous, comme Gaëtan le disait, avec notre forêt jardinée française, c'est clairement des dimensions qui sont pas possibles, du moins économiquement. Voilà, par exemple, je vais prendre le chêne qu'on trouve chez nous. Le chêne en France, il est exploité à partir de 80 ans et on va aller jusqu'à 120 ans. C'est rare qu'en forêt, vous trouviez un arbre de plus de 120 ans, à moins qu'il fasse partie de ce qu'on appelle des arbres remarquables.
Qui vous demande de venir planter votre petite graine ?
Qui nous demande de venir planter notre petite graine ? C'est bizarre, dit comme ça.
Ben oui, je me pose la question.
Concrètement, les agriculteurs, de plus en plus. Avant, on les appelait les paysans. Ouais. Ça a pris au fur et à mesure du temps une connotation assez négative, mais moi, je dis pas du tout, parce que qui dit paysan dit paysage. C'était les façonneurs du paysage, et on commence à retrouver cette utilité. Et les communes aussi, de plus en plus, font appel à nous, dans le cadre de la politique de la ville.
Alors, on va parler de tout l'intérêt. Tout à l'heure, vous me disiez quand même, chez les agriculteurs, c'est également une façon de marquer son territoire. Alors forcément, il y a la délimitation qui est nécessaire, mais parfois, c'est également sur des destinations entre ce qui va être du domaine de la zone d'activité et puis du domaine agricole.
On le voit clairement sur la zone à proximité, hein, à Lovin-Planck, là où il y a eu Amazon qui s'est implanté. Hein, clairement, d'où l'association, on est venu planter, on nous l'a demandé. C'est les agriculteurs de la commune qui sont venus nous voir pour nous dire on veut marquer une limite. On veut dire stop, la zone industrielle n'ira pas plus loin. Là, c'est chez nous.
Ouais, alors quand en Amérique, on fait des murs en béton, vous faites des murs avec...
On peut dire ça comme ça. En fait, l'arbre, il n'a pas qu'une seule symbolique. Il a tout un tas d'images qui lui est associée. Et nous, l'homme, on en a fait aussi également une marque de délimitation, tout à fait, délimitation des territoires. Et bon, quitte à devoir séparer des territoires, moi, je préfère que ce soit avec des arbres plutôt qu'avec des murs en béton, c'est clair et net.
Alors, une fois qu'on a planté une haie, qu'est-ce qui se passe derrière ? Vous allez surveiller, ou alors on plante et puis tout se passe bien
Alors, tout se passe bien, des fois oui, ouais. Comme c'est arrivé sur Flers sur Escrobio, on a planté avec des agriculteurs où la haie, depuis qu'on l'a plantée, on n'a jamais eu à intervenir dessus. Donc quand ça se passe comme ça, c'est magnifique. Et d'autres fois, on se rend compte que finalement, on a planté des arbres et que certains n'étaient pas forcément bien adaptés au type de sol, parce que c'est vrai que nous, on observe aussi ce qui se passe dans le sol, mais on va creuser 1 mètre, 1,50 mètre, au-delà, on n'y va pas. Pour nous, avec nos moyens, c'est pas possible. Donc, on va contrôler cette haie. On revient pendant 5 ans observer. Donc, comme on a planté, on arrive à 1.0. On va observer quels animaux arrivent. Hein. C'est le même principe que sur le film. Plus la haie avance dans le temps et plus la biodiversité s'y développe.
Et là, vous, le GON, ça vous intéresse. Hein. Tout ce qui va être corridor écologique, évidemment, mais également cet effet de lisière, de passage d'un territoire à un autre.
Oui, on parlait de marquage de territoire. Le bocage, comme on n'en a plus par chez nous, mais comme il en reste encore un peu, par exemple, dans le parc de la Vénois, le bocage, c'est clairement ça, hein, c'est marquer des parcelles. Oui, l'évolution d'un terrain qui n'était pas boisé et qui l'est, on a un exemple, hein, chez nous, les 70 hectares du domaine de la Chaumière et prolongé par 45 hectares dans le site du Marais de Quéry, ce sont des hectares qui étaient consacrés à l'agriculture intensive, qui ont été plantés il y a un peu plus de 10 ans, 12, 13 ans maintenant, tous les ans, il y a un an de plus, c'est terrible. Et c'est planté à 75% avec 25% de clairière. C'était des champs cultivés en intensif. Donc, on observe. Alors, moi, évidemment, je ne vais pas voir la fin, hein. Je serais mort bien avant la maturité de la forêt. Mais déjà, sur ces quelques années, on observe des rythmes. Déjà, rien que sur moins de 15 ans, on observe des rythmes. Il y a un rythme rapide les 5-6 premières années de colonisation par les espèces, notamment les espèces d'oiseaux. Et puis, on arrive là à une espèce de stade qui plafonne avant véritablement une grande maturité. Il y a des espèces d'oiseaux qui existaient, mais qui sont confortées. Il y a des espèces d'oiseaux qui ont diminué, et c'est logique, les oiseaux de la plaine. Et puis, il y a beaucoup, notamment d'oiseaux migrateurs, qui sont revenus. Ceci dit, il ne faut pas non plus imaginer que ces espaces-là échappent aux grandes tendances. Il y a des espèces d'oiseaux qui disparaissent, et là aussi, on les a vus, et puis on en voit moins. On n'est pas non plus sous une cloche où tout se passe merveilleusement. Ailleurs, il y a des problèmes, et on a aussi les mêmes problèmes.
L'idée, c'était de protéger la ressource en eau, parce qu'il y avait trop de nitrates, nitrites ?
Trop de nitrates.
Trop de nitrates.
On dépassait les normes de 50 mg par litre. Voilà.
Il a fallu discuter longtemps pour trouver la formule pour pouvoir protéger. C'était pas si compliqué que ça à trouver, mais il faut convaincre.
Il y a à la fois des obstacles administratifs qui sont très longs. Et il faut, au début, je me rappelle, la première solution qui a été évoquée, c'était on va bétonner l'Escrobieux. Puisque c'était essentiellement l'eau de ruissellement qui amenait les nitrates dans le lit de l'Escrobieux et qu'ensuite ça percolait à côté des stations de pompage, la première idée, c'était on va faire un fossé anti-char en béton. Il a fallu un peu se remuer pour éviter ça. Alors, évidemment, les choses évoluent. Maintenant, on ne ferait plus ça. Je crois que personne n'oserait plus proposer ça. Mais ce n'était pas si vieux.
Voilà. Alors, aujourd'hui, il y a un plan de gestion. C'est suivi. Le calendrier d'intervention n'est plus le même. Lui aussi, comment ça s'est passé ?
Oui, au début, il faut absolument, c'est des plants qui font rien du tout, quoi. C'est des petits troncs qui font 1 cm de diamètre. Donc, il faut absolument pas qu'ils soient étouffés par la strate herbacée. Donc, il faut faire des fauchages interlignes régulièrement, tous les ans, pas forcément sur toutes les lignes tous les ans, mais une fois tous les 3 ans, etc. Et aujourd'hui, on est arrivé au stade où les arbres ont eu presque 15 ans et en dessous de certains endroits, l'herbe ne pousse plus. On a déjà ce stade où la lumière ne va pas suffisamment au sol pour provoquer, pour permettre une strate herbacée. Le stade futur, ce sera une grande futaie, je ne sais pas si je le connaîtrai, mais une grande futaie avec du taillis en dessous. Mais bon, là, on n'est plus sur les mêmes échelles de temps, là, on est à dizaines d'années.
Ce que je cherche à comprendre, c'est géré par qui, cet espace ?
Techniquement, c'est sous régime forestier.
Ouais.
Donc, c'est l'Office national des forêts qui établit un plan de gestion.
Donc, c'est l'ONF qui entretient.
Alors, qui l'entretient, ça pourrait être autre chose. Mais l'ONF a aussi une activité, j'allais dire marchande, d'entretien. Et donc, forcément, c'est plus simple.
Retour sur le festival FestiPlanète, reboisement et espaces forestiers. Au programme, on se retrouve dans un instant.
Radio Scarp Sensé, la puce à l'oreille.
We're gonna change the dial to something new. Radio Scarp Sensé, la puce à l'oreille.
Et aujourd'hui, retour sur le FestiPlanète, au programme espaces forestiers et reboisement. On en parle avec le GOMN, groupement ornithologique et naturaliste, représenté par Gaëtan et Cédric, des planteurs volontaires. Il y a également parfois, parce que moi je me promène, je vois des tas d'espaces boisés qui ressemblent plus à rien. On ne peut même pas rentrer dedans. J'ai l'impression que c'est entièrement abandonné. Quand on, questionne, on dit ben oui, il y a un propriétaire privé, mais le problème c'est qu'il n'est pas là parce que c'est, certainement c'était transmis, c'était hérité. Il y a également une partie de l'espace forestier qui est en quelque sorte maltraité.
Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de maltraitance ? Parce que finalement, bah, comme on le disait depuis le début, notre forêt est jardinée. C'est vrai que, bah, en général, quand un propriétaire a une parcelle de forêt, en général, c'est un héritage, il n'en a pas forcément l'usage. Après, les coûts pour les successions, les batailles administratives, c'est quelque chose de lourd, les gens n'ont pas forcément envie de s'impliquer. Et le fait de laisser la forêt se reposer, entre guillemets, pour moi, j'en vois pas le problème. C'est vrai que nous, de notre vue d'être humain, ça a l'air abandonné. Mais moi, c'est ce que je dis souvent. La forêt n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin d'elle. Donc voilà, après, si on veut repartir sur ce principe de forêt jardinée, il y a des formations qui sont faites par le centre de la propriété forestière.
Alors, on y apprend quoi dans ces formations, justement ?
Bah, on y apprend la taille des arbres, on y apprend comment gérer son domaine, donc avec un plan de gestion. Le plan de chasse également, hein, faut réguler les populations animales, vu que bah, malheureusement, vu qu'on a jardiné la forêt, on a perturbé ses équilibres, donc il faut à un moment donné...
Ah, j'ai vu, se dessine une petite moue, voilà Gaëtan, l'espace privé forestier, terrain de jeu pour chasseurs.
Alors, oui, les boisements, hein, parce qu'on parle de forêt, mais il y a différents types de boisements chez nous. Je vais revenir un tout petit peu en arrière. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, mais qui, à mon avis, ce n'est pas une forêt, mais il y en a beaucoup de peupleraies dans la région. Les peupleraies, les peupliers plantés comme des poireaux, etc. Bon, c'est du boisement, ce n'est pas vraiment de la forêt. C'est pas extrêmement riche, sauf quand ça vieillit et que ça commence à pourrir. C'est là que ça devient intéressant.
Mais généralement, alors, on le coupe avant pour extraire le bois avant.
Voilà, c'est ça. Et là, on est sur des rotations de 25-30 ans, quoi. Ouais. Donc, alors, il y a des domaines boisés qui sont consacrés à des activités commerciales et la chasse fait partie de ces activités commerciales. Les naturalistes n'ont pas évidemment le même regard sur les espaces boisés. On estime que c'est des zones où justement il faut intervenir le moins possible, réguler. Ça veut dire quoi ? Bon, c'est un vaste débat, hein, mais il ne s'agit pas d'interdire la chasse partout, mais il s'agit de se poser la question, quel est l'objectif, quel objectif j'ai pour le boisement qui m'appartient ? Alors effectivement, la propriété privée, il y a énormément de petits boisements disséminés un peu partout qui appartiennent à des privés. Certains sont gérés pour la production de bois, d'autres sont gérés pour plutôt la pratique de la chasse, d'autres ne sont pas gérés du tout. Nous, ça ne nous gêne pas excessivement, parce que, comme le disait Cédric, un boisement qui vieillit, qui est un peu abandonné à lui-même, c'est vrai qu'il peut avoir l'air pas beau, mais qu'est-ce que c'est que cette notion d'esthétique ? Du bois pourrissant, du bois mort, des arbres qui tombent tout seuls, c'est aussi des sources de vie.
Voilà, et puis des champignons et tout, voilà. Tout ce qui va bien. Ce matin, cet après-midi, vous étiez place d'Armes, à Douai. Quelle est l'approche du public que vous avez rencontré ? Est-ce qu'ils connaissent les planteurs volontaires ? Est-ce qu'ils ont connaissance de tous les dispositifs ? Et puis on va parler également de plantons le décor.
Clairement, moi j'ai envie de vous dire que non. Hein. Disons que dans le Douaisis, c'est un public qui n'est pas forcément très sensibilisé à cette cause, mais c'est aussi pour là que nous on est là, hein, les acteurs de la reforestation. Hein. C'est vrai qu'au niveau des planteurs volontaires, on commence à être connu au niveau de la région Nord-Pas-de-Calais. Donc c'est vrai qu'on fait, les communes font de plus en plus appel à nous, les agriculteurs également. Alors moi, comment je fais quand j'arrive, bah, comme aujourd'hui, sur la place d'Armes pour capter l'attention des gens ? Bah, clairement, je fais quelque chose d'inattendu. Là, par exemple, cet après-midi, j'ai fait ce qu'on appelle des bombes à graines.
D'accord.
Hein, j'ai utilisé le terme bombe volontairement.
Ouais.
Donc les gens arrivent et disent « qu'est-ce que c'est que ça ?»
En état d'urgence, il faut faire attention.
Clairement. Moi, je leur explique que c'est la seule forme de bombe qui est autorisée en France.
Ouais.
Hein, clairement. Et je commence à leur parler des petites plantes, pas forcément des arbres. Les arbres, j'y viens par la suite. C'est les sensibiliser avec une action, on pourrait dire, presque anodine. Ça démarre par là.
Sur l'opération Plantons le décor, qui est donc portée par le Conseil régional, c'est bien ça. L'idée, c'est quoi? C'est d'inviter les gens à planter chez eux des essences locales?
Tout à fait. Alors, le Plantons le décor, c'est un dispositif des espaces régionaux qui a maintenant plus de 25 ans.
Ouais.
Donc, on a été les pionniers en France de ce système. Et en gros, il est accessible aux associations, aux particuliers, à tous ceux qui ont besoin d'arbres. Et donc, ces arbres sont cultivés par des pépiniéristes conventionnés par la région. Donc là, à l'heure actuelle, ils sont au nombre de 6.
C'est-à-dire que ça, j'ai pas allé acheter un arbre ailleurs, chez un marchand d'arbres ou
Alors, non. J'ai envie de dire non. Parce que tout simplement, ces arbustes... Pardon.
Oui, non, vas-y.
Je disais, ces arbustes, ils sont locaux, ils sont adaptés à nos sols. Ceux que vous allez trouver en jardinerie, c'est pas forcément le cas.
Voilà, adapté justement. Alors ça, c'est un mot, hein. Adaptons. Je vais revenir sur l'aspect faunistique. Il y a des espèces qui ont besoin de l'arbre, qui ont besoin, on l'a bien vu, de la forêt. Aujourd'hui, moi, je vois arriver des nichoirs centre-ville. Je vois arriver la reconquête pour la faune centre-ville. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus capable de l'accueillir. Est-ce qu'on peut se contenter de ça? Est-ce que ça doit être transitoire? Comment le naturaliste regarde ce qui est peut-être porté de bonne volonté, quoi? Mais est-ce tout à fait logique de se dire qu'aujourd'hui, les abeilles vivent plus en centre-ville qu'ailleurs? Est-ce qu'il faut penser que, également, les oiseaux vont être amenés également à être des résidents urbains?
Alors, effectivement, sur les abeilles, c'est peut-être quelque part quand même le constat d'un échec que de voir que les ruchers, les ruches qui sont en ville produisent plus de miel que les ruches qui sont en campagne. C'est quand même le constat d'un échec, à mon avis. Ceci dit, j'ai rien contre le fait de mettre une ruche, mais enfin, il faut être conscient, quoi. Il ne faut pas voir que l'aspect positif, c'est quand même...
La solution n'est pas forcément là. Faut le maintenir, mais...
Pour ce qui est des nichoirs, il y a deux aspects. Il y a un côté pédagogique au nichoir. Il y a un côté sensibilisation. Il y a un côté, allez-y, vous avez tous un petit rôle à jouer pour aider, donner un coup de main aux oiseaux. Ça, c'est ce côté-là. Évidemment, et il y a aussi un côté parfois curatif. Je vais reprendre l'exemple du site du Marais de Quéry. Lorsqu'il y a eu ce projet d'étanchéification de l'Escrebieux, finalement, il a été étanché, le lit de l'Escrebieux, mais pas de manière définitive, puisqu'on a recréé, après avoir mis une couche de bentonite, etc., on a recréé une rivière quasi naturelle. Seulement, pendant les travaux, il y a énormément d'arbres qui ont été abattus. À l'époque, on a mis une quinzaine de nichoirs, dont on a obtenu le financement d'ailleurs par la collectivité territoriale. Et depuis ce temps-là, je grimpe tous les ans en haut de l'échelle pour contrôler les nichoirs. Donc là, ça a été curatif. Le but, effectivement, c'est qu'on n'en ait plus besoin. C'est qu'on n'en ait plus besoin. Tant qu'on constate qu'ils sont occupés, on continue. Mais le but, c'est que grâce aux plantations qui ont été faites, dans un certain nombre d'années, le nichoir, c'est terminé, on n'en a plus besoin, ça c'est certain. Alors après, le nichoir dans les villes, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai rien contre. Maintenant, il faut parfois distinguer ce qui relève de l'opération de communication de ce qui relève du véritable besoin des oiseaux. Parlons de certains, du faucon pèlerin par exemple. Je vais prendre l'exemple de Lille, pour ne pas parler de Douai. Je vais prendre l'exemple de Lille. Le faucon pèlerin s'est réinstallé tout seul à Lille. C'est un rapace prestigieux qui avait disparu, qui avait failli disparaître dans les années 70. Il est venu tout seul. Il a délogé un faucon cresserelle à la cité administrative, qui nichait dans une vulgaire caisse en bois, un cajot. Il a délogé, il a pris sa place. Quand on a vu ça, on a mis un nichoir. Nous, on s'est dit, il faut lui donner quand même une résidence correcte.
Ouais,
on a mis un nichoir, pas sur la cité administrative, mais ailleurs. Il a apprécié, il y a été. Puis l'année suivante, il est revenu dans sa caisse. Donc, simplement pour illustrer le fait que dans un jardin, les mésanges vont venir facilement, parce que dans un jardin, il n'y a pas forcément beaucoup de vieux arbres avec des trous. Après, l'oiseau fait ce qu'il veut, quoi. Il vient quand il veut. Mais le côté pédagogique est important. Et vive le vecteur, quoi. Le vecteur nichoir pour sensibiliser à la protection.
Alors, ce matin, moi, je suis allé m'imprégner justement en allant me promener à Quéry-la-Motte. Premier constat, il n'y a pas de parking, donc il n'y a pas de déchets. Parce que c'est peu fréquenté, c'est propre, il n'y a rien, y a rien qui traîne. Il y en a très peu. Je connais des sites où quand même on en croise beaucoup plus. Et puis, j'ai eu ce sentiment effectivement que les choses allaient bien, moi ça m'a plu. Et ça m'a fait quand même un peu penser à la chance qu'on a également à Douai d'avoir un espace naturel, un parc régional quasiment centre-ville qui est un petit peu sanctuaire, qui n'est pas facilement accessible au public. Et on est un petit peu dans cet esprit également. Il ne faut pas que ça devienne... Il faut le promouvoir, c'est là toute la complexité.
Quel site tu parles ?
Je parle de Oignonville, le parc naturel à Oignonville.
C'est une réserve naturelle régionale, c'est-à-dire qu'il y a un statut très, très, très précis de protection.
Voilà, on ne peut pas rentrer comme on veut dessus. Tantôt, c'est ouvert au public, il faut en profiter. Mais c'est ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il faut trouver le juste milieu finalement pour pouvoir en parler et limiter l'accès. On est toujours là dans cette éducation nécessaire qui n'est pas forcément facile.
Ben oui, Oignonville est un bon exemple. Il a été créé en 1994 officiellement parce que depuis des années, on avait remarqué quand même qu'il y avait une certaine biodiversité, on dirait aujourd'hui, en tout cas une certaine avifaune, notamment liée au milieu humide. On a réussi à faire obtenir ce statut de réserve. Alors le statut de réserve, une réserve n'est pas forcément fermée au public, mais là en l'occurrence, on est dans la vallée de l'Escrebieux, il y a le parc Fenin si on veut se promener, il y a plein d'endroits à Douai si on veut se promener, donc là on a restreint l'accès et il est accessible uniquement sur visite guidée. Bon, il y a une dizaine, 8 à 10 visites guidées par an, voilà. Le but c'est quand même de respecter au maximum dans ces 20 hectares la tranquillité, puisqu'on est en zone périurbaine et que si on provoque trop de dérangements, ben l'intérêt qui a fait que la réserve a été créée, c'est-à-dire la reproduction notamment des oiseaux d'eau, ça risque d'être perturbé.
Radio Scarp 106, la puce à l'oreille. Radio Scarp 106, la puce à l'oreille.
Dernière partie de notre émission, retour sur le FestiPlanète. Ciné-débat après la projection du film Il était une forêt. Il est question d'espace forestier, de reboisement en région Hauts-de-France et notamment dans le Douaisis, avec Cédric des Planteurs Volontaires et Gaëtan du groupement ornithologique et naturaliste Nord-Pas-de-Calais. On est aujourd'hui le 1er avril. Qu'est-ce qui fait Oui, c'est le poisson. Qu'est-ce qui fait un planteur à partir du 2 avril? Il rentre en hibernation jusqu'en novembre ou il y a encore du boulot à faire?
Il y a encore énormément de boulot à faire parce que c'est bien. On a planté les arbres de novembre à mars. Maintenant, il faut les compter pour savoir combien on repris.
Ouais.
Parce que quand on fait une plantation, les gens croient souvent que suffit de creuser un trou, de mettre l'arbre et qu'il va reprendre tout seul. Il faut savoir qu'un taux de reprise, avoir le taux de reprise d'une plantation, hein, clairement, il n'est jamais de 100%. C'est impossible. Donc nous, notre première tâche, ça va être déjà de comptabiliser sur les 15 000 qu'on a plantés cet hiver, combien on repris.
Vous êtes planteur volontaire, c'est que vous appelez également à la bonne volonté des personnes pour vous venir vous filer un coup de main
quand il
le faut.
Toutes les personnes qui viennent planter avec nous, ce sont des bénévoles. C'est les habitants de la commune concernée, les écoles primaires, les enfants adorent ça. Hein. Les lycées agricoles du secteur, on travaille souvent avec Douai Biotech maintenant, c'est son nouveau nom. On travaille forcément avec les agriculteurs du secteur, les associations environnementales, hein, l'Union écologique de Flers, on a été le fer de lance quand on est arrivé sur le territoire, clairement. Et à part ça, qu'est-ce qu'on fait d'autre à part compter nos arbres? Clairement, c'est l'installation de ce qu'on appelle l'observatoire de la biodiversité. Donc, c'est des indicateurs qu'on va placer dans nos haies, dans nos plantations, justement pour observer cette faune. On a planté, certes, mais est-ce que ça sert à quelque chose?
La bonne volonté va suffire. Je vais évoquer quand même, parce qu'il faut le dire quand même, vos associations actuellement ont quelques craintes. Parce que la région coupe les vivres, voilà, il y a plus de financement.
Oui, nous on a un financement zéro en 2016 et probablement zéro en 2017. Oui, c'était 22% de nos ressources. Ceci dit, on reste pas les bras croisés. Ça crée une difficulté. On se débrouille pour aller trouver d'autres financements de deux types, clairement. Je fais un petit peu mon brief que je ferai demain à notre Assemblée Générale. des financements publics, Agence de l'eau, qui a maintenant une compétence biodiversité en dehors des milieux aquatiques, des financements européens, des financements air marine protégés dans l'optique d'un futur parc marin sur les côtes, et puis des financements privés. Par exemple, on a maintenant, et ça c'est une demande qui augmente, les porteurs de projets éoliens qui sont maintenant obligés de faire des suivis après post-installation, eh bien, des fois ils tapent à notre porte pour dire est-ce que vous avez la capacité à faire un suivi sur le parc, etc. Donc voilà, on développe des activités, on profite des opportunités. Ceci dit, on n'est pas sûr de pouvoir conserver nos 7 salariés au-delà de 2017-2018.
Voilà, c'est le moment jamais de le faire se faire. Comment ça se passe pour les planteurs?
Alors, nous, on est dans un meilleur cas de figure, j'ai envie de dire. Hein. Pour 2016, nos ressources vis-à-vis de la région n'ont pas été touchées. On ne sait pas comment on va être mangé en 2017. Ça va se jouer là, dans les prochaines semaines en fonction des rendez-vous qu'on aura avec la région. Clairement, nous, quand on a créé l'association, ce qu'on voulait tout de suite dès le départ, c'était diversifier les ressources. Ouais. Finalement, ça a été un bon choix quand on voit finalement qu'on a changé d'exécutif au niveau de la région. Finalement, j'ai envie de vous dire, pour financer des arbres, vous trouverez toujours des structures privées pour financer des arbres. C'est pas ça le plus dur. Le plus dur pour nous actuellement, c'est de réussir à financer nos 3 salariés, dont je fais partie. Voilà, vous aurez toujours quelqu'un pour payer ce qu'on pourrait appeler l'investissement.
Ouais.
Pour payer le fonctionnement d'une structure, c'est autre chose.
Juste sur cet aspect-là, ce que je voudrais dire, c'est que c'est regrettable. Parce que, disons que c'est une décision d'ordre politique qui fait qu'on nous a coupé les vivres du Conseil régional. Et c'est dommage, parce que ce que font nos salariés, ça n'est rien d'autre que du suivi de la proposition et de la mise en œuvre de la politique publique en matière de biodiversité. Voilà. Et c'est un peu dommage que sur des attitudes, un peu des postures, etc., on ait décidé, le nouvel exécutif ait décidé de ne plus nous financer. C'est un peu ridicule. Surtout qu'il y avait des programmes qui étaient financés 50% État, 50% région. Sur ces programmes-là, on n'a plus que la moitié. Or, c'est des programmes de connaissance, d'études et de protection de la faune sauvage en Nord-Pas-de-Calais. Ce qui est quand même qui relève de l'intérêt général.
Gaëtan, du groupement ornithologique et naturaliste Nord-Pas-de-Calais Hauts-de-France, et Cédric, des planteurs volontaires, étaient nos invités pour ce débat sur le thème du boisement et de la reforestation en région Hauts-de-France et notamment dans le Douaisis, à l'occasion du Festi Planète. Merci de votre attention et de votre fidélité, et à bientôt sur Radio Scarpe Sensé.
La puce à l'oreille.
C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour.
We are the world. We are the children.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe 107.